J'ai maintenant l'honneur d'accueillir Shaul Rosenblum. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Shaul, vous êtes avec nous, Shaul ?
Oui, je vous écoute.
Alors Shaul, vous avez survécu à la Shoah et vous avez accepté de nous livrer votre témoignage. Encore merci. Alors Shaul, pouvez-vous pour les auditeurs nous dire de quel pays est originaire votre famille et qui de votre famille à part vous a survécu à l'Holocauste ?
Écoutez, je suis née à Paris de parents polonais, des réfugiés polonais qui sont venus s'installer à Paris pour essayer d'améliorer leur niveau de vie. Je ne sais pas exactement à quelle date mes parents sont venus en France. Je sais que mon père, lorsque mon père a quitté la Pologne, il a fait quelques années de travail en Allemagne. J'avais une photo où je voyais mon père avec une dizaine d'ouvriers portant un rail de chemin de fer. Mes parents étaient tailleurs, c'est-à-dire que mon père était plutôt tailleur chapeau, je ne savais pas que ça existait.
Oui.
Et ma mère était d'une famille de tailleurs qui faisaient des vêtements sur mesure. Mais pour vivre, ils travaillaient à la chaîne, c'est-à-dire que mon père amenait la maison dans une toile noire, ils ont 10 manteaux découpé, c'est-à-dire les pièces pour les manches, pour les poches, pour le devant, pour l'arrière. Et leur travail était de les coudre ensemble et sans doute ils étaient payés à la pièce. C'est très important à dire parce qu'ils n'arrêtaient pas de travailler. Nous vivions dans une maison dans des conditions assez précaires et je comprends qu'ils faisaient tout pour essayer d'améliorer le niveau de vie. Nous avions deux chambres. Il y avait une chambre à coucher, j'étais l'aîné, donc j'étais le seul enfant au début. Et c'était un salon atelier, c'est-à-dire qu'il y avait, dans le salon, il y avait deux machines à coudre, il y avait une planche pour le repassage, et chaque instant était pour travailler. Encore un manteau, encore 20 francs, encore 50 francs. C'est-à-dire toute la jeunesse que j'ai connue, c'était jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai toujours vu en train de travailler. Un de mes souvenirs les plus anciens de mon enfance, je suis couché dans mon lit, dans le noir. Il y a un filet de lumière qui passe sous la porte et j'entends le ronflement des machines. Sans arrêt.
Et
effectivement, la maison était dans un état assez précaire. Il n'y avait pas de toilettes. Il n'y avait pas de salle d'eau, il y avait de l'eau courante, seulement il n'y avait pas d'égout. C'est-à-dire qu'il y avait un robinet, il y avait une cuvette, si vous voulez, mais en dessous, il fallait mettre un seau.
Oui.
C'est-à-dire, si vous usiez de l'eau, à la fin, le seau se remplissait, il fallait faire une trentaine de mètres dans le couloir pour le jeter dans les toilettes turques. Donc les conditions étaient assez difficiles. Je me rappelle que mon père m'emmenait de temps en temps à la douche municipale pour faire une douche.
Ah oui.
Et c'était effectivement les conditions. Nous habitions rue de Charenton, dans le 12e arrondissement, au 82 rue de Charenton. La façade de la maison était constituée de pans d'habitation modestes. Et dans le fond de la cour, il y avait des ateliers parce que cette maison se situait pas loin du faubourg Saint-Antoine, qui était un endroit réputé pour les meubles. Donc, il y avait beaucoup de meubles, de menuiserie et des vendeurs dans la cour. Et nous étions la seule famille habitée dans cette partie industrielle. Il y avait au quatrième étage une vieille dame. Donc, nous étions les seuls habitants dans cette maison.
J'ai compris. Incroyable.
Dès que je suis née, la première langue que j'entendais, c'était le yiddish. Mmh. Et c'est qu'à partir de 4 ans, où j'ai commencé au jardin d'enfants et à l'école communale, que j'ai appris le français. J'ai beaucoup aimé l'école, j'ai beaucoup aimé les études. Donc j'ai passé une petite enfance relativement calme.
Vous avez encore...
Mes parents m'envoyaient chaque été des colonies de vacances. Il y avait à l'époque beaucoup d'institutions juives qui organisaient des vacances pour les enfants. Donc j'allais à la campagne, j'allais dans le nord de la France. Mmh. Et en 1937, ce que je veux souligner, c'est qu'à l'époque, on ne partageait pas les problèmes ou les espoirs avec les enfants. Un exemple plus frappant. Ma mère était une femme grande, assez maigre. Et je me suis rendu compte qu'elle était grosse. Je ne savais pas, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. J'en ai parlé à mes copains à l'école, on a rigolé, elle est grosse. Et puis un beau jour, le 17 février 1937, mes parents arrivent en taxi avec une petite fille. On me dit, voilà, tu as une sœur, elle s'appelle Marie.
Vous ne saviez pas que votre mère était enceinte ?
J'ai vu qu'elle était grosse, mais à l'époque, on n'était pas tellement avancé, on était assez naïf. Ce n'est pas les enfants d'aujourd'hui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand une annonce, une naissance est annoncée, si un gosse est né, on le prépare, on lui fait comprendre, tu vas l'aider, tu vas l'apprendre, tu vas le protéger, tu vas jouer, etc. À cette époque, on ne parlait pas aux enfants. Bon, il est vrai que j'avais 7 ans. Mais malgré tout, à 7 ans, j'étais assez curieux parce que une chose qui m'a beaucoup frappée à l'époque, c'était en 1936, c'est la guerre d'Espagne. Pourquoi la guerre d'Espagne ? Parce que dans le quartier où j'habitais, il y avait sans doute beaucoup de réfugiés espagnols et sans doute beaucoup de communistes ou de socialistes et pour qui la révolution d'Espagne était très importante. Je me rappelle, près de chez moi, il y a encore aujourd'hui un très grand marché, le marché d'Alix, qui est un des plus beaux marchés de Paris, à mon avis. Et je me rappelle avoir vu au marché avec ma mère 7-8 personnes tenant un grand drapeau rouge. Et les gens passaient et jetaient des pièces de monnaie pour soutenir les républicains espagnols. Je me souviens qu'il y avait des réfugiés qui passaient de porte en porte et qui demandaient « Donnez-nous des chaussures, des chaussettes, des chemises, des pulls verts. » Tout ça pour soutenir la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que j'étais assez éveillé, assez curieux. Et je me rappelle avoir vu des démonstrations dans mon quartier. C'est quand les brigades internationales ont été dissoutes et la délégation française est passée dans mon quartier, il y avait des heurts avec la police, avec des choses. C'était donc l'histoire de cette guerre d'Espagne m'a beaucoup touchée. Donc en 1937, ma sœur est née et au bout de 2-3 ans, il s'avère qu'à l'époque, on craignait beaucoup la tuberculose. Oui. Et je pense, parce qu'on ne m'a jamais tenu au courant, on m'en a jamais parlé, mais je suppose qu'elle avait des problèmes de respiration. Et une gosse de 3 ans, je répète, de 3 ans, a été envoyée dans un sanatorium dans le nord de la France, toute seule. Peut-être avec une aide sociale.
Votre sœur Marie, qui a été...
Ma sœur Marie, voilà, exactement.
Et
voilà, elle est revenue, ensuite
elle
est revenue à la maison, etc., etc. Ensuite, la guerre a éclaté.
Alors,
en 1939,
est-ce que vous pouvez nous raconter ce début de guerre?
Pardon?
Je vous demandais, est-ce que vous pouvez nous raconter ce début de guerre? Comment l'avez-vous vécu? Nous raconter voilà, ce qui s'est passé, que vous avez senti un changement à l'école, dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais que la guerre a été déclarée entre la France et l'Angleterre contre l'Allemagne. Et pendant des mois, rien ne s'est passé. C'est un peu la drôle de guerre. Mais à l'époque, à la radio, on recommandait aux gens d'être très prudents en disant que beaucoup d'espions allemands tournaient dans les rues et cherchaient à noter des endroits stratégiques. Soyez prudents, si vous entendez quelqu'un de douche, si vous doutez de quelqu'un, n'hésitez pas, téléphonez à la police. Je vous raconte cela parce que le cousin de mon père que j'ai connu, il voulait téléphoner à sa famille, ou je ne sais pas, et à l'époque, les téléphones étaient assez rares. Donc, un des meilleurs moyens, c'est d'aller dans un bureau de poste et de faire une communication. Ce qu'il a fait, il est rentré dans un bureau de poste, il a commencé à parler en yiddish. Et une des employées était certaine qu'elle a découvert un espion allemand. Elle a donc téléphoné à la police. Il a été immédiatement arrêté. Et dans certains sens, ils lui ont sauvé la vie parce qu'il a été déporté en Afrique du Nord.
Ah bon ?
C'est incroyable. Il est en Afrique du Nord. Et c'est son cousin, après la guerre, après la libération, qui nous a récupérés et qui nous a introduits de nouveau dans un milieu juif. Voilà, ça c'est la drôle de guerre.
Et alors après, qu'est-ce qu'il y a eu concernant votre mère et votre sœur et vous ?
Les problèmes d'alimentation, il fallait certaines heures pour aller faire des achats, les juges, les médecins, les avocats n'avaient plus le droit d'exercer, les médecins non plus. Et il y avait des heures qui étaient destinées à faire des achats. Il fait, les juifs devaient voyager dans le dernier métro et on avait porté l'étoile. Donc la situation était très, très difficile. Et je me rappelle qu'à l'époque, mon père avait trouvé une combine. Il allait au marché aux puces, il achetait des vieux vestons d'hommes. Il les défousait, il retournait le tissu, il faisait des blousons. Et ces blousons étaient vendus à des paysans pour avoir de l'argent, pour avoir de la nourriture. Et c'était moi le seul qui savait un peu le français. J'avais 10 ans, 11 ans. Mm-hmm. Et je faisais la correspondance avec les paysans. Donc on envoyait deux blousons, en échange, je recevais ou un kilo de beurre, ou un lapin, ou un poulet.
Pour survivre. Est-ce que vous, votre famille apportait l'étoile jaune ?
Oui, mais bien sûr.
Mais c'était obligatoire.
Et voilà, le 1er juillet 1942, c'est très important, le 1er juillet 1942, toujours sans beaucoup d'explications, mes parents m'ont dit, voilà, tu vas partir à la campagne, on va t'emmener chez une madame qui, elle, t'emmènera à la campagne. C'était le 1er juillet 1942.
Sans explication.
Sans explication, oui. En fait, ils m'ont sauvé la vie, parce que si j'étais resté encore 15 jours à Paris...
Bien sûr.
Il serait pu rester longtemps.
Quel âge aviez-vous ? Excusez-moi.
J'avais 12 ans.
12 ans.
Et donc, le 1er juillet 1942, mes parents m'ont amené dans l'île Saint-Louis. À l'époque, il y a toujours deux îles dans la Seine. Il y a l'île de la Cité où est Drouda, mais l'île Saint-Louis, petite île. À l'époque, c'était un quartier assez délabré. Avec le temps, c'est devenu un endroit très chic. Bref, ils m'ont amené chez cette madame gentille, avec un Y. Et le lendemain, on a pris le train, on est parti dans le Loiret, chez sa belle-sœur, qui était une fermière, entre Châteaurnard et Collignon.
Vous étiez avec votre sœur, Marie ?
Non, j'étais seule.
Ah,
ma sœur était ailleurs.
D'accord.
Et bien, en fait, on n'a pas beaucoup vécu. On passait une année ensemble avec ma sœur. On n'a presque pas eu d'enfance commune. Bref.
Ok.
Je suis arrivée dans cette ferme et il y avait des vaches, il y avait une chèvre et tout rapidement, d'abord j'étais éblouie par la campagne, d'abord il y avait plus à manger qu'à Paris et j'ai vite appris à mener les vaches dans les prés de cette famille, etc. Ça passait très bien et je ne savais pas que le 16, 17, 18 juillet, il y a eu la fameuse rafle du Veldiv.
Alors là, vous avez échappé vraiment de peu.
Alors, le 21 juillet 1942, cette madame gentille qui m'avait amenée dans cette ferme est revenue. Elle m'a dit, sors, je dois parler avec ma belle-sœur. Je ne savais pas que mes parents étaient déportés, mais je sentais quelque chose de pas très catholique. Bref, je me suis appuyée à la porte et j'ai entendu, il y a un problème avec le gosse. On a pris les parents. Qu'est-ce qu'on fait avec le gosse ?
C'est terrible.
Et madame Gentil a eu le courage. La ferme lui a dit, écoute, tu l'as amené, j'ai pas de problème. Tu es juif, tu fais ce que tu veux, tu le prends et tu fais ce que tu veux. Et elle a eu le courage de me prendre chez elle.
Elle vous a gardé. Elle vous a sauvé.
En 1942, c'était pas recommandé. Bref, on m'a amené chez elle, rue dans l'île Saint-Louis. Et il y avait deux enfants. Ils avaient deux enfants, Gérard et Marie-Cette, qui étaient un peu plus âgés que moi. Et comme on était trois enfants au lieu de deux, l'appartement était petit. Donc, pendant l'été, on a déménagé. On est passé boulevard Kellermann à la Porte d'Italie.
Et ensuite ?
Et dès que je suis retournée à Paris avec elle, on a été à la maison. Essayer de pouvoir rentrer à la maison, prendre des vêtements, prendre des souvenirs, prendre quelque chose. On est donc arrivé 82 rue de Charenton, n'ayant pas de clé. Bien sûr, un gosse de 12 ans, 10 ans, il n'a pas la clé de la maison. On s'est adressé à la concierge. Et la concierge dit « Ah, c'est vraiment dommage, c'est des gens très gentils, travailleurs, etc. etc. » On a demandé la clé, alors on a monté avec nous dans l'appartement. Et là, j'ai eu la bêtise de dire à haute voix que beaucoup de choses me manquaient. D'abord, il n'y avait plus de manteau, parce qu'il y avait toujours des manteaux prêts qui étaient prêts à être expédiés. Et je me rappelle aussi, il y avait une ménagère, c'est-à-dire un coffre avec des couverts d'argent qui avait disparu. Alors j'ai dit, ça a disparu, mon père. Et cette concierge sentit sans doute mal à l'aise, a fait venir un agent de police qui nous a fait sortir de la maison. Donc, j'ai rien pu prendre de la maison.
Et l'agent de police...
Madame Dianti prétend, je ne me souviens pas, qu'on a été à Drancy pour essayer de contacter mes parents. Elle m'a dit non, on nous a menacés. On m'a dit, si vous continuez, on va vous enfermer aussi. Bref, donc j'ai plus aucune nouvelle de mes parents.
Ils ont péri dans les camps, excusez-moi de...
J'ai appris par la suite qu'au mois de juillet, ils ont été exterminés à Auschwitz.
Je suis désolée.
Je me suis retrouvée seule, sans famille. Je vivais donc avec cette famille. Il y avait avec ces deux enfants, il n'y a jamais eu beaucoup de contacts. Je ne sais pas pour quelle raison. Ou bien c'était de ma faute. Je ne sais pas, enfin... On a vécu quand même ensemble pendant 3 ans. Et la seule chose qui me soulageait, c'est d'aller à la campagne. Attends, il y avait un problème avec Monsieur Gentil. Monsieur Gentil travaillait au chemin de fer. Il travaillait à la gare de Bercy. À l'époque, Bercy était un centre de triage de wagons-citernes de vin. C'est-à-dire que les grandes marques de vin, les grands producteurs, avait des entrepôts à Bercy, donc il fallait des gens de la SNCF pour faire les manœuvres, pour manœuvrer les wagons. Donc, c'est dire qu'il était dans un milieu vinicole. Et je me rappelle qu'il avait un bidon légal de l'armée française, un bidon qui contenait 2 litres, et il buvait beaucoup de vin, donc il était de mauvaise humeur. Il rentre à la maison en respectant. Et une des raisons de ses rouspétances, c'est qu'il n'avait pas assez de tabac. C'était un buveur, mais c'était aussi un grand fumeur. Et un beau jour, il m'a dit, écoute, tu vas te promener dans la rue, et si tu trouves des mégots, tu les ramasses. Hein? Comme ça peut me permettre d'avoir des cigarettes. Mais surtout, comme c'était un grand patriote, il m'a dit, surtout, des gauloises, pas de cigarettes allemandes. Donc, je me promenais dans Paris. Tout Paris était à moi. J'allais aux Champs-Élysées, j'allais à la République, j'allais à la Bastille, j'allais à la Gare de Lyon. Et je lui ramenais j'avais une boîte, j'avais un veston, et dans la poche, j'avais une petite boîte en métal. Une fois que la boîte était pleine, je rentrais à la maison. Il faisait les mégots, il se faisait les cigarettes. On était tranquille. Encore une journée passée. Et voilà, c'était comme ça. J'ai vécu dans Paris tout seul. C'est-à-dire que j'avais essayé de retrouver des relations de mes parents qui habitaient à Bonne Nouvelle, rue des Jeuneurs, je me rappelle encore l'adresse. Et je me suis présenté là-bas en disant, voilà, je suis mon enfant. Et comme l'accueil a été assez froid, assez distant, je ne suis plus retourné. Donc, je vivais à Paris comme un chat de gouttière. C'est-à-dire,
oui.
J'avais la maison où j'habitais avec Madame Gentil, mais je n'avais pas un endroit où on m'aurait accueilli gentiment, disant qu'il veut voir quelque chose, qu'il te manque quelque chose.
Oui, vous errez dans les rues.
Oui, je jouais dans les rues, surtout pendant les vacances, parce que j'allais à l'école, j'étais dans une autre école. Donc, j'ai changé de quartier, j'ai changé d'école, et je ne portais plus l'étoile. C'est-à-dire que dès que, d'abord, quand je suis partie à la campagne, j'ai jeté l'étoile, et quand je suis revenue à Paris, je n'avais plus l'étoile, et je n'ai plus jamais remise l'étoile.
Et vous n'aviez pas peur que qu'on vous découvre, qu'on découvre que vous étiez juif?
C'était de l'imprudence, ou bien je me promenais dans le métro, il y avait parfois des officiers allemands qui étaient à côté de moi et tout. Je sais pas, il y avait une certaine... ou bien c'était de l'inconscience, ou bien c'était... Je ne sais pas comment dire ça, je ne me faisais pas peur. Ouais, voilà.
Et après la guerre, qui vous a recueilli? Parce qu'après la guerre, donc vous aviez 13-15 ans.
Alors après la guerre, bon, après il y a eu, ensuite il m'a envoyé chercher, il m'a envoyé ramasser des mégots, après il m'a envoyé vendre des journaux. On habitait à la Porte d'Italie, il m'a envoyé à...
Ah, vous êtes resté avec la famille gentille même après la guerre?
Oui, bien sûr, je n'avais pas où aller, il n'y avait pas de famille.
C'est incroyable.
Mais elle a eu beaucoup de courage. Cette
oui,
femme.
Ils vous ont finalement sauvé et adopté. Et
effectivement, j'ai été à Yad Vashem, j'ai donné un témoignage. Elle a été reconnue juge des nations, à juste raison.
C'est incroyable. Et votre sœur?
Et ma sœur a tourné à droite, à gauche, et pendant un an, c'est-à-dire le fameux cousin, ce cousin qui est revenu d'Afrique du Nord, qui a été mobilisé dans l'armée anglaise, c'est lui qui nous a ramenés un peu dans le monde juif. Il y avait une maison de juifs aux Andlis. L'Andlis, c'est une petite ville le long de la Seine. Et là-bas, il y avait un château rose, qui s'appelait Château Rose. Il y avait tout un tas d'enfants, comme voilà, des orphelins. Et j'ai vécu là-bas un an avec ma sœur. Comment le problème, j'étais le plus âgé. C'est-à-dire que je n'avais pas de camarades, il n'y avait pas de gosses de mon âge. Donc, je restais une année. Et ensuite, j'ai été dans une autre maison d'enfants, à jouer en Josas, près de Versailles. Une maison qui faisait partie des éclaireurs juifs de France. Et là, pour la première fois, j'ai retrouvé la vie juive. D'ailleurs, je ne suis pas religieux, mais mes parents étaient assimilés. À la maison, on ne fêtait aucune fête. Et dans cette maison, avec ma sœur aussi, c'est une maison, c'est souvent un parti de gauche, surtout. Donc, le côté religieux était assez effacé. Et dans cette maison, près des Juifs en Josas, j'ai enfin connu les fêtes, Pâques, Rosh Hashanah, et toutes les fêtes.
Grâce aux Zéhi.
Ah oui, c'était une maison très, très bien. On était une maison très bien organisée avec des moniteurs, des jeunes moniteurs de grande valeur. Et puis là, c'est là que j'ai connu ma femme. Mm-hmm. J'ai connu ma femme qui, elle, a été arrêtée au Veldiv. Enfin, je ne sais pas s'il y a encore le temps de parler longtemps, mais...
Allez-y, vous pouvez... Allez-y.
Pardon ?
Non, allez-y.
Fanny était la plus jeune des enfants. Il y avait 6 enfants de 2 mères différentes. Et Fanny était la plus jeune et la seule qui est née en France. Donc c'était la seule qui était française. C'était quand les événements sont devenus de plus en plus durs. Les grands frères et sœurs se sont cachés. Ils habitaient rue de Maubeuge. Et au 7e étage, ils avaient un petit cabanon, un petit truc. Les aînés se sont réfugiés. Et la mère de Fanny s'est dit, voilà, ma fille est française. J'espère qu'ils vont nous respecter. Ils ne vont pas nous arrêter. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Ce qui n'est pas passé. C'est-à-dire que la police est venue et a emmené Fanny et sa mère, au Veldiv.
Et elle a survécu. Et
pareil, j'ai eu un aperçu de ce qui s'est passé dans ce Veldiv. Je ne sais pas si vous savez, le Veldiv, c'était au mois de juillet, c'était très très chaud. Il y avait une verrière qui augmentait la chaleur. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'infirmerie, il n'y avait rien du tout. Ce que la mère de Fanny a remarqué, c'est que de temps en temps, c'est-à-dire que les installations étaient assez primitives. C'est-à-dire que les toilettes, il y avait des grands seaux Hein, quand ils étaient pleins, il fallait les vider et mettre des choses, des choses de... Et la mère de Fanny s'est rendue compte que chaque fois qu'ils sortaient du Veldiv, deux personnes tenaient une espèce de barre de fer sur laquelle était accroché le truc de merde, vous m'excuserez. Hein, et les gens se cachaient, c'est-à-dire les gens se collaient à la hauteur de ce fût et ils sortaient du Veldiv. Et la mère de Fanny a dit, écoute-toi, tu vois ce qu'ils font? Tu vas faire la même chose, tu vas passer et on va sortir. Non, 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 j'ai peur. Donc elle n'est pas sortie. Et sa mère a été déportée et Fanny est restée vivante. C'est-à-dire, comment elle est restée vivante? Les jeunes étaient séparés dans des grandes salles. Il y a des jeunes qui sont passés dans les salles en disant, qui a de la famille à Paris? Alors Fanny dit, moi. Elle a son père, ses frères et sœurs, dit toi, cette nuit, tu sors d'ici. Elle ne sait pas exactement comment, elle n'a jamais su m'expliquer elle-même, mais elle s'est retrouvée dehors. Ils ont fait une espèce de... Ils ont attaché des couvertures ou des draps, je ne sais pas exactement, elle ne savait pas elle-même m'expliquer. Elle s'est retrouvée dehors. Et elle voulait rentrer à Paris, parce que... Grand fils, c'est pas à Paris, c'est en banlieue, donc il faut arriver à Paris. Donc, quelqu'un lui a fait, l'a pris en autostop. Elle est arrivée à la station de métro, je ne sais plus laquelle. Bon, elle n'avait pas un sou, donc une dame lui a donné quelques francs pour acheter un billet de métro. Elle est arrivée à la maison, ils lui ont dit, où est maman? Et maman, elle est... Et je crois qu'elle m'en a jamais parlé d'une façon ouverte, mais j'ai l'impression... Elle a eu ça sur la conscience. Et s'il avait été un peu moins peureuse, peut-être que sa mère aurait été sauvée.
Non, on peut pas savoir.
Voilà, donc, je suis connue dans une maison d'enfants. Enfin, voilà. Maintenant, après, je suis montée en Israël.
Alors, justement, voilà, Shaoul, concernant voilà. Israël, le fait de vivre aujourd'hui en Israël, entouré de votre famille, est-ce que pour vous, vous considérez ça comme une revanche sur les nazis?
J'ai mal entendu répéter.
Excusez-moi, alors je vous ai dit le fait de vivre aujourd'hui en Israël, entouré de votre famille, est-ce que vous considérez ça comme une sorte de revanche sur les nazis?
Certainement. J'ai deux enfants, j'ai six petits-enfants, et j'ai cinq arrière-petits-enfants.
Incroyable.
Ah oui,
c'est magnifique.
C'est ma victoire, ça, parce que je suis arrivée à Paris, je suis arrivée en Israël. Ce qui est bizarre, j'ai quitté la France le jour de mes 18 ans. Je suis née le 19 juin 1930, donc dans 6 semaines, je vais avoir 94 ans.
Mazel tov.
Et le 19 juin 1948, j'ai pris le bateau.
Ah oui, alors vraiment, lors de la fondation de l'État d'Israël?
Non, le pays a été construit en 48 et il y avait à... Ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans cette maison d'enfants à Juin-en-Josas, il y avait un délégué de... Voilà. Il y avait un kibboutz français à Neve-Ilan. Je ne vous dis rien maintenant. Aujourd'hui, à Neve-Ilan, c'est une petite banlieue de... C'est à 11 km de Jérusalem. Et c'est là-bas qu'est le studio de la télévision israélienne. À l'époque, c'était un kibboutz qui a été monté, qui a été créé en 1946. Pour des raisons bien simples. Neve-Ilan est une butte. Et deux de cette hauteur, on peut surveiller tout un tronçon de route qui va vers Jérusalem, parce qu'à l'époque, les routes de Jérusalem étaient attaquées par des Arabes tout le long de la route. Donc, ils ont créé un endroit stratégique. Non pas, ça n'a pas été créé pour des raisons économiques, ça a été surtout pour des raisons stratégiques, pour soutenir les convois qui allaient à Jérusalem. Mais ce kibboutz Neve-Ilan, c'était un kibboutz frontière, c'est-à-dire, après Neve-Ilan, il n'y avait plus rien. C'était No Man's Land, c'était arabe. Donc, on était, en une semaine, on était soldat, et une semaine, on était
agriculteur. Voilà. Et Shaoul, est-ce qu'un jour, vous vous êtes imaginé, lors de cette sombre période, que vous arriverez à cet instant vivant, entouré de votre famille, de vos enfants, de vos petits-enfants,
pas ça, je pensais pas.
Et qui plus est en Israël?
Oui, oui, certain. Non, écoutez, j'ai quitté la France, j'avais aucune attache, aucun lien, aucune obligation. Je me suis dit, ce type-là qui venait de Neveilan, il venait dans cette maison d'enfants, il nous parlait de Neveilan, il nous parlait d'Israël, il nous parlait d'un kibbout français, etc. Il fallait venir. Alors, comme on n'avait pas de lien aucun, on dit, bon, on va y aller, on va voir si c'est bien, c'est pas bien, on revient. Et on y est, j'y suis là-bas depuis 70 ans, même plus.
C'est magnifique.
Voilà. Voilà, en gros.
Alors, pour la dernière question, depuis le 7 octobre, certains comparent la guerre terrifiante dans laquelle nous sommes plongés depuis maintenant 7 mois à la Shoah, notamment ces terribles attaques.
C'est pas être comparé, c'est plutôt un pogrom, c'est surtout, c'est pas la Shoah, c'est pas possible, c'est pas 6 millions, c'est pas... Parce que, effectivement, ils nous ont surpris, on a été décimés, ils ont tué des innocents, ils ont violé des femmes, ils ont tué des enfants. C'est vraiment tragédie, le pays dans une situation très, très difficile au point de vue politique. Il y a des gros problèmes. On se demande comment on va s'en sortir, parce que l'avenir nous semble assez obscur pour des raisons politiques, pour des raisons du gouvernement. Voilà, j'espère que j'ai pu ajouter une petite lumière à cette coupe de choix. Oui, tellement de choses beaucoup plus atroces que moi. J'ai passé, en fait, j'ai passé la Shoah à Paris. Hein. Mm-hmm. Je n'ai pas été dans un camp, je n'ai jamais été affamée. Il y avait des problèmes de nourriture, etc. Il y avait là que faire les queues, il y avait les tickets, il y avait... Ah, c'était pas facile. Mais en fait, j'ai vécu dans... J'ai dormi dans un lit, j'ai mangé plus ou moins à ma faim. J'allais en vacances. J'adorais ça, j'allais en vacances. Dans une autre branche de la famille. Et là, j'étais heureux comme tout. D'abord, on recevait des gentiments. J'ai découvert la nature. Je me rappelle encore du lit. Il y avait 3 chevaux. Je me rappelle la couleur des chevaux, les noms des chevaux, les caractères de chaque cheval. Je donnais à manger aux cochons. J'avais ramassé les poules. Ah, c'était vraiment... J'ai vraiment ça m'a donné le courage. J'attendais les vacances. Une vacance à l'autre. J'étais à Paris. J'allais à l'école. Je vendais les journaux. Je ramassais les bégots. Mais ça me donnait des... Ah, j'ai dans 3 mois, dans 1 mois, je vais prendre le train à la gare de l'Est, je vais aller là-bas. Et tout près de Paris, en Seine-et-Marne, c'est là à peu près où il y a Disneyland. C'est à 40-50 km de Paris, mais c'était, à l'époque, c'était beaucoup plus loin. C'était... Puis c'était la ferme, on me recevait gentiment. Bon, ça m'a donné beaucoup de courage, ces vacances à la campagne.
Shaoul, vous m'avez beaucoup ému, et j'imagine que vous avez aussi ému beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous ce témoignage et cet enseignement. Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin, peut-être quelque chose à transmettre aux générations qui arrivent, qui vous suivent?
Écoutez, j'espère, je me demande quel pays on laisse à nos enfants, quel pays on laisse à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Est-ce qu'ils auront la chance de vivre dans un pays équilibré, avoir des rapports normaux avec des Arabes? Est-ce qu'Israël sera un jour admis dans le monde arabe? Ça semble tellement improbable. Ça fait déjà 100 ans que ça dure et sans arrêt. On ne tue en tout le temps des Juifs. On tue autour en faisant... C'est pas possible, ça. Après ce qu'il y a eu la Shoah, regardez ce qui s'est passé le mois d'octobre.
Oui, c'est impossible.
Terrible. On se disait, oui, s'il y avait eu une armée, si on avait un pays pendant la guerre mondiale, ça ne serait pas arrivé. Hélas, on a un pays, on a une armée formidable, on a des spécialistes, en renseignement, etc. On s'est fait avoir, malheureusement. Ça coûtait beaucoup de vie.
Ouais.
Voilà, alors... voilà, je m'excuse s'il était un peu...
Non, ne vous excusez de rien du tout. Tout ce que vous dites, c'est extrêmement juste et... Et c'est des paroles avec beaucoup de valeur. Donc, encore une fois, Shaoul Rosenblum, merci infiniment de votre témoignage. Et on espère vous recevoir de nouveau très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
D'accord, merci.
Bonne soirée.